RCF.
Le temps de le dire sur RCF.
Bonjour à tous, c'est le temps de le dire et aujourd'hui, de la poésie pour vivre le temps du deuil. Nous sommes le mercredi 2 novembre et nos calendriers indiquent jour des défunts. L'occasion pour certains de se rendre au cimetière, de fleurir les tombes et peut-être aussi, parfois, de continuer une conversation interrompue par l'irruption de la grande faucheuse. Les auditeurs les plus fidèles se rappellent peut-être que l'an passé, nous avions interrogé le lien que nous entretenions avec nos morts, comment nous vivions avec eux. Ces interrogations posent la question de la langue. Quelle langue utiliser pour dire la mort, pour conserver vivant le souvenir de ceux qui ne sont plus ? Comment exprimer la fin, mais aussi le lien mystérieux qui continue d'exister entre les êtres qui se sont aimés. Le langage poétique est peut-être une réponse, en tout cas un chemin. La poésie et les poètes côtoient l'indicible, le mystère, les palpitations intérieures. Deux d'entre eux sont avec nous ce matin. Tous deux ont traversé la perte d'un être cher. Tous deux se sont accrochés aux mots pour saisir l'instant et continuer à vivre. Alors ce matin, ils nous partagent leurs mots, la nécessité de l'écriture pour appréhender la mort et au-delà du chagrin, rester en vie. C'est le temps de le dire, nouvelle émission pour dire la force de la poésie, une poésie pour tous les temps et aujourd'hui plus particulièrement pour celui du deuil. Alors comme tous les jours, vous avez la parole, vous pouvez réagir en direct ou par écrit. Catherine Ségouffin est au standard et elle vous attend.
Le temps de le dire, présenté par Stéphanie Gallet.
Et donc ils sont deux dans cette émission. Laurence Bouvet, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous êtes poète, vous avez publié plusieurs livres. Celui qui nous intéresse s'appelle « Comme si dormir », c'est aux éditions Bruno Doucet. Vous racontez le jour de la mort de votre mère et les jours qui ont suivi. Vous décortiquez cet instant et vous interrogez aussi sur le langage. On va raconter ça dans quelques instants. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que de formation, vous êtes psychologue. Donc la question de la langue et de l'écoute sont aussi au cœur de votre façon de vous tenir au monde. Merci beaucoup d'être là. Autre invité dans cette émission, Stéphane Bataillon, bonjour.
Bonjour.
Votre livre s'appelle « Où nos ombres s'épousent, vivre l'absence ». C'est aussi publié aux éditions Bruno Doucet. On ne dira jamais combien c'est une belle maison, ces éditions Bruno Doucet, une maison de poésie qui nous fait découvrir des pépites. Alors vous, Stéphane Bataillon, il y a 10 ans, vous aviez 30 ans, je crois, vous avez perdu votre femme. Et dans ce livre, vous lui écrivez des poèmes. Vous écrivez au dos de ce livre « Je t'avais promis une caresse chaque soir, désormais, ce sera un poème » et vous nous parlerez de ce lien subtil qui continue à exister entre elle et vous et qui n'arrête pas la vie, au contraire, qui peut-être la nourrit. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, dans une autre partie de votre vie, vous êtes journaliste.
Oui. Hein,
et donc vous aussi, vous maîtrisez les mots et peut-être aussi l'écoute du monde. Merci beaucoup Stéphane Bataillon d'être avec nous. Alors chers auditeurs, aujourd'hui, on va peut-être travailler un peu différemment. Je voudrais d'abord rencontrer en profondeur chacun de mes invités, pendant une dizaine de minutes chacun, et ensuite on les fera dialoguer, et peut-être aussi dialoguer avec vous. Donc soyez patients, attendez peut-être 25 minutes avant d'envoyer vos messages, avant de téléphoner, et voilà, et puis on sera un plaisir d'échanger avec vous. Je vous donne dès maintenant le téléphone 04 72 38 20 23 et le mail le temps de le dire @rcf.fr.
9h-10h, le temps de le dire sur RCF.
Laurence Bouvet, votre livre, il aurait pu commencer comme le livre de Camus, hein, « Ce matin, maman est morte ». On vous l'a déjà fait plein de fois, je le sais. En fait, vous, votre mère est morte un dimanche soir. Vous racontez la routine d'une vieille dame, d'une mamie, hein, qui a regardé son feuilleton du dimanche soir, qui va préparer la table du petit déjeuner et puis qui se dirige vers sa chambre. Et en fait, elle n'arrivera pas à sa chambre puisqu'elle va tomber dans son couloir. C'est ça ce qui s'est passé ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'était un dimanche et c'était un dimanche de Pâques. Et donc, on l'a trouvée, elle est morte le dimanche soir, on l'a trouvée le lundi matin, voilà, tombée en allant, effectivement, en se dirigeant visiblement vers sa chambre, puisqu'ensuite, sous l'impact, parce qu'il y a un impact traumatisant, comme je le dis dans le recueil, on mène l'enquête. C'est-à-dire pourquoi, comment qu'a-t-elle fait avant de mourir, éventuellement qu'a-t-elle pensé, et donc en menant cette enquête, enfin si je puis dire, c'est-à-dire venue de la colère, hein, et de la révolte et de la violence. On s'est rendu compte, parce qu'elle regardait chaque dimanche soir donc un feuilleton, une série policière dont j'oublie le nom à chaque fois,
mais c'est
typique, c'est voilà,
j'ai même par contre vous rappelez du titre de l'épisode.
Ah oui, ça j'ai pas pu oublier, voilà, La mort est un poème. Et moi je ne le savais pas, mais ce que l'on savait, mes sœurs et moi, c'est qu'elle regardait chaque dimanche soir ce feuilleton. Comme la télévision était éteinte, comme elle était dans le couloir, que la table du petit déjeuner était prête pour le lendemain, on a pensé, bon voilà, qu'elle avait regardé ce feuilleton. Et c'est une de mes sœurs, ma sœur cadette, qui me dit tu ne vas pas en revenir, mais le titre du feuilleton de l'épisode qu'elle a regardé ce soir-là, c'est La mort est un poème.
Et vous étiez déjà connue comme poète.
Oui, alors je l'ai pris pour moi, je jure, comme un message, hein, vraiment, comme une énigme. Et de là, s'est déclenché pour moi une sorte de nécessité, d'urgence. Si j'étais psychologue, ce que je suis, je dirais une urgence subjective. Comme je suis aussi poète, je peux dire une urgence poétique. De recueillir tout ce qui en passait par moi, aussi bien les pensées, les rêves bien sûr, dont je sais que l'on oublie, avec ce que l'on dit être le deuil ou ce travail de deuil, voilà. Et donc les rêves, les émotions, les pensées, donc que des fragments. Mais je voulais tout retenir, ce qui était une manière de la retenir, elle. Je me suis rendu compte après coup. Mais vraiment, avec l'énergie du désespoir, j'ai tout...
C'était une façon de ne pas oublier
De retenir. Parce que ne pas oublier... Enfin, oublier, bon, ce n'est pas possible, parce qu'il reste justement les souvenirs. Mais c'était retenir presque, j'étais un peu, enfin, crue, c'est-à-dire la retenir, retenir son corps, retenir ce que l'on perd, c'est du côté des sensations, enfin du sensoriel, enfin le ne plus entendre la voix, ne plus sentir l'odeur, ne plus toucher la peau, et on a beau avoir les pensées, toute cette concrétude du vivant est perdue. Alors vous parliez de la langue tout à l'heure. Ce recueil aborde la question de la mort avec un certain langage de l'enfance.
Et les mots de votre mère aussi.
Et les mots, voilà, parce que dans un bon, alors par rapport à Stéphane, c'est vrai que ce recueil, Comme si dormir, est un peu un arrêt sur image, un saisissement sur le vif de la mort elle-même. Vous voyez un peu la tâche impossible. Enfin, et on peut dire que presque corporellement, j'ai participé de l'écriture qui m'a mise à l'épreuve.
Vous parlez d'une épreuve. Vous venez de citer d'utiliser le mot corporellement. Ouais. Vous avez parlé du toucher, de l'odorat, et vous parlez du corps, et du corps mort de votre mère. Et c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à ça en poésie. On a souvent l'image d'une poésie éthérée qui va sublimer. Et là, vous êtes vraiment dans le concret, le plus concret de la mort. C'est-à-dire, on doit appeler les professionnels de la mort pour qu'ils s'occupent du corps. Et là, c'est pas forcément évident.
Non, non, et le corps, oui, parce qu'il s'est trouvé qu'elle est, donc, elle est morte chez elle et elle est, on était seuls, hein, voilà. Donc on est seuls.
Et on ne sait pas faire.
Face, voilà, au corps, c'était au cadavre de sa mère, que l'on a veillé pendant 3 jours. Et avec l'intervention, comme vous dites, de la, ce qu'ils appellent, et je le dis dans le recueil, pardon, les soins de conservation, avec toute la violence, parce qu'on n'est pas préparé, quoi, à ce genre d'expérience. Laisser le corps de sa mère entre les mains de moi, ce que j'ai appelé aussi à l'époque un profanateur, parce que j'étais, bon, il y a la colère, la douleur, hein. Donc, la douleur est un chaos. Et on ressent des choses très fortes. Hein. Donc, pour moi, ça a été dans un premier temps, une sorte de profanation. J'ai pas du tout supporté l'expérience. Et la jeune dame nous avait dit qu'elle nous la rendrait belle comme on l'avait connue. Voilà. Alors, j'ai recueilli aussi toutes les paroles, tous les mots que l'on dit autour de la mort, à ceux qui ont perdu quelqu'un. Et donc, ce que l'on dit sur la mort. Et à propos de, donc reprenant toutes ces expressions plaquées parfois, j'ai essayé de les démonter, de les incruster dans le tissu du poème, sans tomber dans le pathos, parce qu'il ne s'agit pas du tout de... C'est pas un recueil larmoyant, je
veux
dire.
On sourit même parfois.
Oui, alors voilà, il y a même de l'humour. Hein,
oui, voilà. D'ailleurs.
C'est bon. Et voilà, elle nous l'a rendu comme elle avait tort, parce que je n'ai pas reconnu ma mère, donc je l'ai perdue une deuxième fois.
Et on peut le
dire au moment du constat du corps et des soins. Voilà.
On peut le dire sur ce moment-là. Vous avez pu le mettre en mots, le dire.
Ah, j'ai dit, ah, mais je ne la reconnais pas. Et puis elle ne se maquillait pas comme ça. Et puis le foulard, vous pouvez le positionner autrement. Et puis. Voilà, puis il y a des choses, puisqu'on s'accroche au sensoriel aussi, justement, tout ce qui est sensation. Elle nous a expliqué comment on devait laisser le corps à cause des soins dans la pénombre, pour pas que le soleil touche
son œuvre.
Fasse son œuvre, voilà, par rapport à ce qui est appelé autrement, donc un embaumement. Donc les embaumement, embaume maman, bobo maman, et voilà, je décline aussi les mots.
Moi, il y a tout un travail sur les expressions. En fait, ce que vous dites, c'est que quand on perd sa mère, quand on perd sa maman, on redevient une petite fille.
On est toujours un enfant. Ouais. Quand on perd une mère, on est toujours un enfant. Ça, y a, je crois, quel que soit l'âge, il y a vraiment une sorte de régression, quoi. C'est par rapport à l'absence, la perte, l'abandon.
Et c'est comme si, quand on vous lit, c'est comme si toutes les comptines, le paysage sonore de quand on est une petite fille remonte. Et c'est ça que vous avez essayé de faire remonter aussi?
Oui, c'est sous forme plus que de souvenirs, de réminiscence. Voilà, parce que dans le deuil, on peut-être en parler tout à l'heure justement. Le deuil en lui-même, c'est une longue et lente marche intime. Et il y a des phases dans le deuil. Et alors ce recueil, comme vous le disiez tout à l'heure, ne concerne que le moment.
C'est très concentré.
Oui, on ne peut pas parce que je ne voulais pas être dans la narration. Parce que je sais que dans le récit, je savais, parce que c'est une sorte d'intuition, que dans le récit, le fait de narrer, de raconter la mort, la perte d'un être cher, on perd quelque chose du vivant. Parce que c'est déjà transformé, c'est déjà à distance, avec du recul. Et moi, je voulais saisir l'insaisissable et dire l'indicible.
Ces poèmes que vous nous offrez dans Comme si dormir, vous les avez écrits sur le moment?
Non.
Est-ce que vous les avez écrits?
Voilà, c'était j'ai tout recueilli, rassemblé sous forme de fragments, et ensuite
il y a le travail
d'écriture qui là par rapport à ce recueil qui qui pourrait faire croire que c'est du spontané, presque du langage parlé, et pas du, enfin pas du tout. C'est tout est, je n'ai rien laissé au hasard, tout est pensé.
C'est pas l'écriture automatique. Hein.
Non.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand une fois que vous avez refermé le livre, vous l'aviez terminé, c'était, vous aviez fini, une passée à autre chose.
Là, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis passée à autre chose parce qu'après, le livre est, a été publié. Et aux premières lectures et à chaque lecture qui a suivi, je retrouvais l'émotion exactement là où je l'avais laissée, si je puis dire, au moment de l'écriture et de la mort de ma mère.
Donc. Laurence Bouvet, vous pouvez nous lire des extraits de votre livre, que les auditeurs puissent goûter à votre poésie.
En allant se coucher, belle mort, beau visage, n'a pas souffert, on dit, bien reposé, comme on dirait, comme si dormir, comme si c'était possiblement comme. Ta mère est, morte ta, mère est morte, façon serviette, enfant trop sage, belle tenue, beau pliage.
Encore un autre ?
Alors j'ai 5 ans. De la terre jusqu'au ciel, éperdu ma mère s'en est allée, bilboquet. Rien ne m'est d'elle qui ne soit moi, qui ne soit elle. Éperdu maman compte jusqu'à 3. Un marteau écrase 1000 abeilles à mon front, les années, à la vie, pour la vie. J'avais une mère, ne l'ai plus. Alors j'ai 5 ans. Petit Jésus, si elle meurt, je te tue.
Et un dernier ?
Pourtant j'étais riche. Rondeur des bras. Rondeur des seins, des hanches, rondeur des joues. J'avais une mère, rondes heures de mon enfance. Ce qui de l'épaule sur sa peau fraîche, ce qui de l'expression insistant dans mes veines, sang de son sang. Fière du rouge à ses lèvres, fière de sa beauté yeux verts.
Merci Laurence Bouvet, des extraits de « Comme si dormir » aux éditions Bruno Bouvet. Bruno Doucet.
Le temps de le dire. Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23.
Allez, on rit dans cette émission puisque je fais des erreurs, ma langue fourche. Bruno Doucet, les éditions. Stéphane Bataillon, vous avez écouté bien sagement Laurence Bouvet. Vous avez lu son livre, vous avez aimé ?
Oui, j'aime beaucoup le rythme. Quand elle le lit aussi, c'est vraiment...
La poésie, c'est vraiment fait pour être entendue. On raconte votre histoire maintenant. Alors vous, c'est une histoire tout à fait différente, puisque vous, ce n'est pas votre maman que vous avez perdue, c'est votre femme. Vous étiez très jeune, vous aviez 30 ans, à un âge où on ne pense pas du tout que la mort fait partie de notre vie quotidienne, en tout cas pas celle de sa moitié. Votre femme est morte d'une maladie, je crois.
Oui, des suites d'un cancer.
C'est un cancer. Et puis là, en fait, vous avez commencé à écrire, vous n'écriviez pas de poésie avant.
Non, c'est vraiment venu... J'écrivais quelque chose, je suis journaliste, donc j'écrivais des articles, des enquêtes. J'écrivais quelques petites histoires comme ça, mais pas du tout de poésie. Et d'ailleurs, quand je me suis mis à écrire suite à ce décès, assez rapidement suite au décès, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc je ne l'appelais pas poème encore.
Et c'est venu comment ? Enfin, c'était quelque chose de spontané ?
Alors ça, c'est vraiment un deuil, c'est... Moi, j'aime bien me documenter. donc, j'avais réussi à avoir eu la force de lire des choses sur le deuil, les étapes du deuil et tout ça. J'avais rencontré des gens qui m'avaient parlé de ça, qui m'avaient beaucoup aidé en me disant, notamment qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais que ça allait, la douleur, le temps ferait que la douleur un jour.
Ça allait travailler en vous.
Ça allait travailler, ça passerait, mais en me disant, au même moment que je n'étais pas prêt à le comprendre. C'est très juste. Donc voilà, j'ai essayé de cerner un peu ça. J'ai eu cette force-là qui vient, je pense, aussi de l'amour que j'avais pour ma femme, qui m'a permis d'avoir la force de surmonter, hein, d'aider quelque chose, enfin en tout cas de tenir. Par contre, ensuite, ce qui se passe, ça nous échappe un peu. C'est-à-dire qu'on a beau se mettre des sortes de balises. Alors ça nous échappe dans le deuil, les étapes du deuil, hein, qui nous arrivent comme ça un peu en, en pleine face. Et ça nous échappe aussi dans ce qu'on produit de ça. Donc moi, l'écriture, la poésie, c'était d'une manière totalement... Alors à la fois naturelle et complètement nouvelle aussi.
L'écriture poétique, c'est une écriture qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture journalistique. Est-ce que vous êtes né à la poésie parce que la traversée de cette épreuve nous rend plus sensibles au mystère du monde ?
Je pense que c'était une nécessité vitale hein, de poser en mots. Je ne me suis pas fait aider, on m'a... par un psychothérapeute, par exemple, suite à ça. Il y a quand même besoin à un moment que
c'est
la
poésie qui vous a aidé
sorte. Oui, complètement, je pense. Et souvent, d'ailleurs, j'écrivais des choses que je n'avais pas pensées. C'est-à-dire que une fois écrit sur le papier, je me disais, c'est ça, c'est exactement ça.
Alors là,
le poème précède un peu, parfois.
On est plus dans l'écriture automatique ?
Alors, dans un premier temps, oui. Oui, après il y a un gros travail justement d'écriture du recueil pour transmettre cette poésie-là. Mais dans un premier temps, oui, ça sortait un peu comme ça. Tout le travail ensuite étant de tamiser les mots, de réduire, de garder vraiment le plus essentiel. Ce qui est d'ailleurs un peu proche des souvenirs, quand Laurence tout à l'heure parlait des souvenirs. Effectivement, on a très très peur de perdre les odeurs, le son de la voix, l'écho de la voix.
Laurence Bouvet disait qu'il s'agissait de retenir. C'était ça, vous aussi ?
Oui, peut-être. Même si j'ai écrit peu sur de la vie passée, tout ce qu'on avait vécu. J'ai écrit très peu de poèmes sur tout ce qu'on avait vécu, à part un qui est important pour moi. Mais retenir, en tout cas, au moment où la perte a eu lieu. C'est-à-dire au moment où on a perdu l'être aimé, s'accrocher un peu à tout ce qu'on peut, tout ce que notre tête, tout ce que les objets, tout ce que les choses peuvent encore nous raccrocher à elles.
Dans ce livre, vous continuez une forme de conversation amoureuse avec elle ?
Oui, tout à fait, une forme de conversation amoureuse sans savoir très bien si où la perte se place là-dedans, ou la réalité de la perte, hein, on parle du déni de la perte, et, on passe tous par là, je pense, il y a une période plus ou moins grande et qui n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que c'est peut-être des moments aussi dans ces périodes-là où on se dit, mais non, c'est pas possible, elle est toujours là. Alors physiquement, bon, ou mentalement, hein, il y a des dialogues, il y a des choses comme ça. Oui, sûrement, c'est un moyen de continuer.
Et voilà, c'est ça, parce qu'il ne s'agit pas de s'accrocher, et ce n'est pas du tout morbide, c'est aussi une façon de continuer à vivre, mais avec elle peut-être, mais différemment.
Oui, non, c'est pas du tout morbide. C'est au contraire, c'est retrouver un peu la joie. On se sent parfois, on rit hein, pendant le deuil. Et au début, on se sent très coupable de rire.
Enfin, mais vous dites qu'il y a une forme d'euphorie, quelque chose qui, pour ceux qui restent, parfois.
Alors, il y a une forme d'euphorie. Alors, après, en creusant, c'est très physique. Hein, c'est des hormones qui se déclenchent dans le corps pour que...
Donc, pour qu'on ne
surmonter notamment à l'annonce du décès, c'est très très bizarre, et donc c'est des hormones qui sont là pour que le corps ne s'effondre pas. Alors euphorie, le mot est spécial,
mais...
non, mais en même temps c'est tout ça qui est compliqué. C'est-à-dire, le deuil nous renvoie à des émotions extrêmement fortes, presque proche d'une passion amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on ressent des émotions qu'on ressent rarement dans la vie, très contradictoires, effectivement, d'apaisement, de perte totale de ses repères et de ses capacités, de chagrin immense bien sûr, hein, et de cris. Et il faut vivre avec tout ça et tout ça dans un temps qui n'est plus le temps des autres. Ce rapport au temps qu'on perd quelqu'un, et moi j'en ai beaucoup parlé avec d'autres personnes, y compris des personnes qui ont lu le recueil et ça a permis de créer l'échange et le dialogue. Ce rapport au temps est vraiment très 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 spécial. Je pense que c'est vraiment très propre à chacun, en fonction des circonstances, en fonction de sa propre vie. Mais c'est vrai qu'on est comme dans une sorte de dimension parallèle où on a l'impression parfois en une journée de vivre 10 ans, et les autres comprennent pas forcément ça. Et on n'a pas forcément envie de faire attention aux signes dans ces moments-là qu'on donne aux autres. aussi le rapport à cette présence, à ses parents, ses amis qui nous entourent, qu'on apprécie énormément, hein, qui nous aide à suivre, et en même temps cette solitude terrible à l'intérieur de nous, qui est difficilement explicable quand on ne l'a pas vécu.
Vous ne nous donnez pas son prénom ?
Non.
C'est intentionnel ?
C'est intentionnel. C'était peut-être pour sublimer cet amour, peut-être aussi pour permettre au lecteur de se projeter dans ces mots-là, comme un témoignage.
C'était une évidence dès le début ou c'est venu en travaillant ?
Alors, même en écriture immédiate, je n'ai jamais écrit son prénom parce que c'était l'évidence pour moi.
Il n'y avait pas besoin de l'écrire.
Et puis aussi, autre chose importante, c'est que dans ces périodes-là et pendant très longtemps, moi ça a duré à peu près 2-3 ans, le prénom de la personne...
était difficile à prononcer.
Et pas difficile à prononcer, par contre, est dans la tête toutes les secondes de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... on doit se redire le prénom de la personne. Donc, ma femme s'appelait Sarah, et j'avais Sarah dans la tête plusieurs fois par minute. Et pendant très longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose, ce prénom, c'est intéressant, enfin ça m'a interrogé, est vraiment tout le temps présent comme une sorte de litanie, voilà, qu'il faut vivre, enfin on vit avec, hein, de toute manière, c'est comme ça. Donc pas dans les poèmes.
On va écouter un peu de promotion publicitaire, je suis désolée. Et après, on écoutera...
C'est nécessaire.
C'est nécessaire. Et après, on écoutera, vous nous lirez des extraits de votre livre « Où nos ombres s'épousent ».
D'accord.
Le temps de le dire. Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23.
C'est RCF que vous écoutez, le temps de le dire, merci pour votre fidélité. Ce matin, en cette journée des défunts, eh bien, nous parlons du deuil et peut-être de la poésie et comment la poésie peut nous aider à vivre ces moments difficiles. Nous en parlons avec deux poètes, Laurence Bouvet, « Comme si dormir », c'est son livre aux éditions Bruno Doucet, elle nous en a lu tout à l'heure des extraits. Et puis Stéphane Bataillon, son livre s'appelle « Où nos ombres s'épousent, vivre l'absence », c'est aussi aux éditions Bruno Doucet. Et Stéphane, vous allez nous lire quelques extraits de votre livre, on vous écoute.
Je n'ai pas la douleur, je n'ai pas le besoin, et je n'ai pas l'exil. J'ai juste perdu celle que j'aimais. Bien sûr, l'asphyxie. Bien sûr, le pourquoi, crier sans voix au fond de l'ombre. Mais quelque chose qui nous dit d'attendre, que nous devrons nommer. Quelque chose de simple. Une larme, gorgée de ton sourire, ne dit pas si je dois pleurer, mais doucement. Une étendue de sable, la mer au loin, du vent, l'image se brouille. Tu te penches pour ramasser un galet, puis deux. Tu récoltes avec soin ces vieux témoins du monde, comme s'ils pouvaient se fendre, et comme si ta chaleur assurait leur survie. Tu me dis, c'est important les galets. Tu es belle.
Stéphane Bataillon, des extraits de votre livre « Où nos ombres s'épousent ». Laurence Bouvet, vous avez écouté Stéphane Bataillon, vous l'avez lu aussi. Vous êtes sous charme.
Oui, donc c'est dans deux styles différents. Oui. La question de la perte est abordée, et moi j'adore l'écriture de Stéphane qui me rappelle un peu Guy Vic, enfin si je puis me permettre, parce que l'espèce de simplicité tout à fait efficace, et comment on peut avec très peu de mots dire ce qui était, voilà, l'indicible. Et là, on sent, enfin, ce que j'ai aimé dans ce recueil, c'est l'aspect de conversation, enfin, plutôt de dialogue, enfin, parce qu'il s'adresse, à elle, comme s'il était à son chevet ou à la lueur d'une bougie. Et il y a quelque chose d'apaisant et d'apaisé, je trouve, dans l'écriture de Stéphane. Ce qui tranche, voilà, je dirais, avec le fracas et le chaos. Et c'est tout à fait... Mais c'est
il faut important. Lire les deux livres.
Oui, c'est très important. Et voilà.
Et il faut lire dans...
Il transforme, parce que la poésie, voilà, c'est là, il transforme la colère, la douleur. Il dit au départ, je n'ai pas la douleur. Est-ce que c'est ça le déni?
Sûrement.
Donc il faut les lire dans le sens. Il faut commencer par Laurence Bouvet et puis après lire celui de Stéphane Bataillon. Stéphane Bataillon, vous dites désormais ce sera... Enfin, je t'avais promis une caresse chaque soir, désormais ce sera un poème. Le livre se termine. C'est-à-dire qu'un jour vous avez arrêté de lui écrire des poèmes?
Grande question.
On est pas
non,
pour
je pense
répondre,
que j'ai continué à écrire des poèmes justement... qui s'adressait à elle, aux autres. Je me dis que peut-être que sa disparition a... Voilà, si moi, ce que j'aurais pu en faire, c'est de relier un peu, de donner à lire, de donner par les mots. Je crois beaucoup que les mots peuvent aider à vivre. J'y crois pour l'avoir vécu. Ça ne remplace rien, hein. Mais au moins j'ai fait quelque chose de cette absence-là. Donc aujourd'hui, je continue à écrire. Évidemment, j'ai une vraie joie d'écriture et j'ai une vraie joie aussi de recevoir des témoignages de personnes qui me...
Alors, il y a un autre livre qui a été publié depuis qui s'appelle Les Terres Rares.
Oui, tout à fait.
C'est aussi aux éditions Bruno Doucet. On va écouter un poète, Alain Bachung, et puis on se retrouve tout de suite après. Je vois qu'il y a des auditeurs qui commencent à frapper à la porte de cette émission et on va les accueillir.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, 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 je sais pas. Un jour je te parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République,
déjà des reflets bleus.
Résident de la République, Alain Bachung, Stéphane Bataillon, Alain Bachung, c'est une évidence?
C'est une évidence tardive, je l'ai découvert assez tard et j'adore ce chanteur, je trouve que il y a vraiment une force de chant, de parole, mais il y a quelque chose qui est formidable.
C'est le temps de le dire, les auditeurs ont la parole, vous n'hésitez pas à intervenir au 04 72 38 20 23 et tout de suite, Martine nous appelle depuis la Corrèze. Bonjour Martine.
Oui, pardon, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bonjour aux écrivains aussi, avec lesquels, comme c'est bizarre, je me trouve d'avoir quelques similitudes. Tout simplement, moi je ne suis pas journaliste, mais correspondante d'un journal local, et j'ai été confrontée malheureusement au départ d'être chère, et en particulier de mes enfants. La question que je voudrais demander, c'est comment peut-on expliquer qu'on ait plus la facilité d'écrire avec les enfants, enfin par rapport au décès des enfants, alors que pour les parents, maman et papa c'est récent, hein, ça va faire 2 ans en janvier, je n'ai pas éprouvé ce besoin de confier mes états d'âme à la feuille de papier. Est-ce qu'il y a une explication ou est-ce que ça serait la logique que peut-être je n'accepte pas le départ de papa? Bon, maman était malade d'Alzheimer, donc déjà j'avais fait plus ou moins le
deuil. Alors on va essayer de vous répondre, Martine. Est-ce qu'il y a des deuils qu'on accepte plus, qui nous révoltent moins et donc pour lesquels on n'a peut-être pas besoin d'écrire et d'autres qui font partie de ce que vous écrivez aussi, Laurence Bouvet, hein, c'est la vie, c'est la mort.
Oui, c'est ce que l'on dit, la mort c'est la vie, avec cette formulation paradoxale qui m'a révoltée un certain temps et que j'ai décortiquée effectivement. Je pense que chacun fait son chemin, parce que est-ce qu'il est plus facile ou moins facile d'écrire? Bon, déjà tout le monde n'écrit pas, alors je pense qu'il y a des gens qui n'écrivent pas du tout, qui sont privés enfin de cette possibilité d'écrire, qui n'ont pas la... qui ne peuvent pas drainer leurs émotions par l'écriture, qui sont sans ces écritures. Et par rapport à un enfant, alors il y a un deuil reconvoque tous les autres deuils. Et peut-être que lorsque l'on est parent, on a déjà fait cette traversée enfin du deuil concernant ses propres parents. Mettons que quand même l'on puisse dire que certains deuils sont vraiment accomplis. Alors il existe le deuil pathologique, hein, bon, et puis à chacun son deuil, je dirais, parce que vraiment là je crois qu'il n'y a pas de ni recette, ni règle, ni temporalité, parce que chacun a besoin du temps qu'il lui faut. Et que si, pour madame, elle a ressenti la nécessité d'écrire plus sur la mort de l'enfant, enfin, que de ses parents, c'est que, voilà, quelque chose était accompli, dépassé, et que l'écriture a peut-être cette particularité de saisir ce qui est encore inacceptable, insaisissable. C'est encore là, voilà, et on écrit autour de ce qui est encore vivant.
Stéphane Bataillon, je ne l'ai pas encore dit, mais votre livre, en fait, c'est une réédition. Mmh. Une réédition augmentée. La première version est sortie en 2010, si je ne me trompe pas. Mmh. Et là, elle ressort cette année avec quelques notes supplémentaires de votre part et puis une postface. C'est une réédition parce qu'en fait, vous avez rencontré beaucoup de lecteurs et vous vous êtes rendu compte que votre livre faisait du bien aux gens.
Oui, enfin, c'était les lecteurs qui m'ont... C'est le plus grand bonheur, hein, de cette aventure-là. C'est les gens qui m'ont écrit, que je rencontre lors de séances de dédicace, qui me parlent assez spontanément de leur expérience, qui est souvent très, très différente, hein, de la mienne. Effectivement, je suis d'accord avec ce que Laurence dit. Chacun son deuil, chacun a sa propre expérience du deuil. Mais maintenant, il y a une sorte de gravité ou en tout cas d'illusion perdue par rapport au tourbillon de la vie, au tourbillon de la société. Enfin, tout ça, on a une sorte de petits décalages, un pas de côté, un pas de en arrière, qui nous fait voir tout ça.
C'est une forme d'amertume ?
Pas du tout une forme d'amertume, mais une forme de retrait. Alors qu'il y a ses conséquences néfastes. Hein. Moi, je sais que une vraie question, c'est la perte de désir, d'un désir en connexion avec les autres, justement. Hein, surtout quand on est jeune. Enfin, moi, j'avais 30 ans, je n'avais pas d'enfant. Et tout était à construire. Donc là, tout s'effondre d'un coup et ça m'avait fait penser à un ami à moi qui a été mon professeur de journalisme, Robert Fies, qui, lorsqu'il est parti à la retraite, m'avait dit « Vous verrez, plus personne ne vous appelle. C'est finalement tout ça, vos positions, ça, du jour au lendemain, c'est fini. » Ça m'avait fait réfléchir, ça m'avait touché. Et là, c'est un peu pareil, mais du
vanité,
coup, on
s'est
un peu avant, voilà, on se dit « Bon, exactement, vanité, l'Ecclésiaste est pour moi un texte fondateur. » Fondamentale, et on se dit, bon, qu'est-ce
qu'on fait ? Finalement, ça donne une maturité. Vous avez eu à 30 ans.
Une maturité qui peut handicaper, hein, parce que du coup, c'est pas, on a du mal à entrer dans les flux, dans le jeu des sociales. Bon, l'aventure n'est pas finie. Le désir revient, doucement. Mais
on
c'est vrai
dire,
que ça prend du temps.
Vous êtes un jeune papa ?
Oui, alors je suis un jeune papa, justement, moi. Fils formidable qui a 4 ans et demi et justement hier c'était drôle, on a été au cimetière sur la tombe de mon épouse et c'est lui qui nous a posé des questions
qui n'est pas sa maman
et donc j'étais avec ma compagne et il nous a posé des questions sur ça, sur la mort, sur qui c'était, sur, et de façon absolument naturelle, très à la fois joyeuse, déstabilisante. Voilà, ça fait partie aussi. Et là, on se dit la mort, c'est la vie. Et par rapport à la question de votre auditrice, pourquoi on écrit plus facilement ? Effectivement, le deuil d'un enfant, je pense que c'est la. Enfin, il y a pas d'échelle du deuil, hein, mais c'est vraiment terrible. Mort des parents, peut-être qu'on se dit que c'est plus naturel, que ça coule de source, ça va de soi. On n'aurait pas à écrire dessus. Et pourtant, on est dans une société qui nie complètement la mort. Que ces moments-là, les moments effectivement, ces moments des cérémonies, la préparation du corps, tout ça. Mais après, compliqué.
Je voudrais lire un message quand même en tout début d'émission. C'est Germaine qui a Caluire dans le Rhône. Elle nous dit « J'ai perdu ma sœur quand j'avais 8 ans. Elle en avait 14 ans. » Et c'est à Victor Hugo que je pense avec son poème pour elle dans le livre 4 des Contemplations. Voilà, elle dit « Je pense à elle en lisant. » Alors c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Voilà, ce message arrive. Et moi, tout à l'heure, pendant qu'il est arrivé, j'avais Laurent Bouvet en train de lire des extraits de son livre « Comme si dormir ». Et ce que les auditeurs ne peuvent pas voir, c'est que en dessous son livre « Comme si dormir », elle avait ouvert devant elle Victor Hugo, « Les contemplations ». Alors, vous pouvez nous en lire un extrait peut-être ? Je ne sais pas. En tout cas, pour vous, vous êtes venu avec « Les contemplations » à la main. C'est quelque chose qui vous porte ?
Ah oui, c'est cela. Victor Hugo, enfin, j'y retourne toujours dans les moments de fragilité, de vulnérabilité. Il n'y a rien à faire, quoi. Donc les contemplations, parce que justement dans les contemplations, il aborde énormément cette question de la mort par rapport à la mort de l'enfant, justement, de sa fille. Bon, il y a le poème très connu qui est Avide Quier. Il était croyant, donc il interroge Dieu, il reconnaît sa bonté, sa clémence, mais quand même, il lui demande de lui permettre de pleurer, parce que c'est quand même pas normal de perdre une enfant qui a 16 ans. Et donc on sent tous les mouvements comme ça. Et quand ma mère est morte, puisqu'il n'y avait, puisqu'elle était à la maison, et que je lui ai lu des poèmes de Victor Hugo. J'ai tout de suite pensé à lui. C'était comme une évidence. Il y a un poème, je dirais, comme il dit lui-même, hein, le sang va retourner à la veine infinie. Alors avant que le sang ne retourne à la veine infinie, je pense que le poète est là pour saisir ce qu'il vit, mais pour le partager, parce qu'en même temps, c'est de l'intime, mais Comme Stéphane, moi j'ai eu besoin de me documenter. Alors j'ai lu tout ce que j'exagère parce qu'on peut jamais tout lire, mais beaucoup de choses sur les écrivains qui et poètes qui avaient abordé cette question de la mort, comme Mallarmé avec Pour un tombeau d'Anatole, donc Victor Hugo pourquoi l'écriture? Pourquoi? Et c'est parce que je me suis dit à un moment donné, c'était pas prétentieux, mais c'était vraiment désespéré, c'est que je ne trouvais nulle part écrit ce que je voulais dire.
Tout n'a pas été dit.
Qui, oui, mais voilà. Non, mais alors c'est tout à fait. Enfin, je présente tout. Mais c'était vraiment ça. Et ça, ce que j'ai lu m'a nourri, évidemment.
Mais continue de vous nourrir, puisque vous êtes.
Oui, voilà. Mais Et donc, un poème que j'aime beaucoup. Je ne vais pas le retrouver tout de suite maintenant, si. Qui est parce qu'il y a de l'espoir. Hein. Victor Hugo passe par plusieurs des étapes tout à fait contrastées de désespérance et de...
Vous le cherchez.
Oui, je le cherche parce que voilà.
En fin d'émission, on finira
tout à fait. Je vous remercie de me laisser le temps parce qu'il faut du temps.
Et on va donner la parole.
Oui, oui.
On va donner la parole à Yvette qui nous appelle depuis Roanne. Bonjour Yvette.
Bonjour. Je baisse la radio.
Oui, baissez votre radio s'il vous plaît.
Cette émission qui est à la fois douloureuse, passionnante et extrêmement utile, si je peux employer ce terme. Mon souci en ce moment, ce qui me tourmente, c'est l'aide que je pourrais apporter à des enfants dont la maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui, selon l'expression de la soignante que j'aime beaucoup comme image, c'est faire le deuil d'une personne encore vivante et finalement pour apprivoiser une autre personne qui est toujours la maman mais qui n'est plus la même maman quelque part. Alors c'est vrai que jadis à la maison, c'était peut-être plus facile, entre guillemets, d'avoir à domicile le grand-père, la grand-mère qui se mourait et puis qui, entre guillemets, perdait la tête. Ça n'est pas... C'est vrai, quelque part. Et voilà, moi, ma question, c'est comment apprivoiser ce pré-deuil, finalement, d'une maman qui s'en va tout doucement.
Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup Yvette pour votre question. Faire le deuil d'une personne encore vivante. Stéphane Bataillon, vous avez été confronté à la maladie de votre épouse et vous nous avez dit, vous avez lu des livres sur le deuil avant même qu'elle soit partie.
Non, pas avant qu'elle soit partie. Par contre, même si on avait un optimisme débordant,
vous saviez.
On savait pas parce que 30 ans, on a le cancer, c'est quand même quelque chose de nouveau. Hein. Tous les mots médicaux sont nouveaux. Par contre, on était convaincus que ça allait marcher. Pourtant, on en parlait ensemble. Ouais. Hein. Si jamais, qu'est-ce qui allait se passer? Je pense que, en vous écoutant, madame, je me dis qu'on fait le deuil de quelqu'un, on fait aussi, surtout le deuil d'une relation. On fait le deuil d'une relation qui, donc là, pour le coup, est une personne qui change. C'est pas évident. Il y a des associations qui sont là pour aider. Hein. Il y a beaucoup de choses par Internet, vous pouvez trouver beaucoup de manières d'aider les personnes en deuil. Donc des associations qui conseillent les gens pour aider, notamment les enfants, parce que c'est quand même très délicat à trouver les bons mots, ne pas dire le mot de trop qui pourrait peut-être traumatiser. Donc il y a plein de choses. Mais c'est vrai que la maladie, c'est la mort. Moi, j'enviais les gens qui avaient peur de la mort, qui se faisaient peur un peu avec les films de zombies, les films de morts vivants, une vision un peu comme ça, apocalyptique de la mort. Elle est là, la mort. Hein.
On n'a pas besoin de dessiner des monstres pour la rencontrer.
On n'a pas besoin de dessiner des monstres. Et vraiment, à un moment, je vous dis, on était très optimistes. Et pourtant, c'était là. C'était là. C'était cette possibilité-là qui est presque très proche, enfin très personnelle. Il y a quelque chose de presque incarné. Hein. Il y a quelque chose de très, très, très bizarre.
Laurence Bouvet.
Oui, je pense, enfin, par rapport au deuil de quelqu'un qui est encore vivant, ça c'est encore tout à fait particulier. Je crois que quand on est proche, si j'ai bien compris, ce sont les petits enfants de Madame l'intervenante.
Je sais pas vraiment.
Enfin, en tout cas, je crois que être le plus naturel. C'est vrai qu'on se pose souvent la question par rapport aux enfants, hein, c'est-à-dire que comment leur dire. Est-ce qu'on va dire les bons mots? Est-ce qu'on va pas en dire trop? Et puis éventuellement pas assez. Et bon, moi-même, je suis psychologue. Je suis confrontée tout le temps, enfin, à des situations où les gens sont en deuil et où des enfants ont perdu leurs parents jeunes, dans des conditions assez terribles. Je crois que il ne faut jamais forcer la parole, parce qu'il y a vraiment un temps presque de silence nécessaire, où rien ne pourra se dire, ou même peut-être chez l'enfant quelque chose, pardon, quelque chose va se geler, rester en suspens et ne pourra être repris que plus tard sous une autre forme à l'occasion d'un.
Faut pas forcer
d'un
la
autre
parole.
Deuil. Non, forcer, non, parce que je ne sais pas si la parole se partage à ce point dans les moments difficiles, mais ce qui, je pense, en revanche, est important, c'est l'émotion. C'est-à-dire l'émotion partagée. Je crois qu'un enfant peut tout à fait comprendre que on n'ait rien à lui dire, mais lui dire qu'on n'a rien à dire, que c'est trop dur, que l'on est comme lui, que l'on est au même niveau, quoi, d'incompréhension, d'indicible. C'est pas de l'écriture automatique, c'est de la parole automatique, parce que c'est le partage et que tout partage est toujours une aide.
Et je pense qu'il faut faire confiance à l'enfant aussi, qui ont leurs questions, qui peut-être ont un rapport presque plus naturel que nous avec la mort, et effectivement laisser le vide, laisser le silence, qui est un silence rempli.
Le temps.
Je voudrais vous lire un mail de Gaëlle. Elle nous dit: j'ai perdu ma mère quand j'allais avoir 11 ans. Elle est décédée d'un cancer du sein. Juste après sa mort, en attendant son enterrement, j'ai écrit une dizaine de petits poèmes que j'ai lus lors de sa messe d'enterrement. Je ne sais pas ce qui m'a inspirée pour tant écrire en seulement 2 jours. Sans doute un trop plein d'émotions. À ce moment-là, je n'arrivais pas à exprimer ma douleur à l'oral. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué d'écrire en lui adressant des lettres que je déposais sur sa tombe, une idée venue du film La Vache et le Prisonnier. J'ai longtemps continué à m'adresser à elle régulièrement à travers un journal. L'écriture m'a beaucoup aidée à une époque où je n'exprimais rien à l'oral. J'ai continué avec la poésie et je me suis mise au slam, un bon moyen d'évacuer la tristesse et la colère. L'écriture peut être salvatrice, je la conseille à tous. Vous aussi, vous avez l'impression que ça vous a aidé?
Ah oui, oui, bien sûr. Ça a aidé aussi à parler, hein, à parler aux autres de cette expérience-là, de l'écrire, de le mettre sur papier, un peu comme un journal intime, hein, de créer de la parole.
C'est la toute fin de l'émission. Vous avez retrouvé le poème de Victor Hugo.
Absolument.
De Laurence Bouvet. Alors on lit et on se quitte après.
Voilà, ce que c'est que la mort. Pardon, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Moi qui adore les chats, ça ne me dérange pas trop, mais j'avoue qu'à l'antenne. Ne dites pas mourir. Dites naître. Croyez. On voit ce que je vois et ce que vous voyez. On est l'homme mauvais que je suis, que vous êtes. On se rue au plaisir, au tourbillon, aux fêtes. On tâche d'oublier le bas, la faim, l'écueil, la sombre égalité du mal et du cercueil. Quoique le plus petit vaille le plus prospère, car tous les hommes sont les fils du même père. Ils sont la même larme et sortent du même œil. On vit, usant ses jours à se remplir d'orgueil. On marche, on court, on rêve. On souffre, on penche, on tombe, et soudain on entend quelqu'un dans l'infini qui chante, et par quelqu'un on sent qu'on est béni.
Et voilà, Victor.
J'ai un peu raccourci.
Victor Hugo, extrait par Laurence Bouvet. Merci beaucoup à tous les deux, Laurence Bouvet, Stéphane Bataillon. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission d'Olivier Tonnelier à votre service. Vous allez parler des spams, comment se débarrasser des spams dans sa boîte mail. Louis Chélid.
Regardez mes chaussures, elles sont en peau de zèbre. Qui osera me dire tes pompes sont funèbres? En l'urne sous la terre, pas de morte saison. Plein de thunes à se faire dans notre profession. En dehors du boulot, je suis un bout en train. Je prends un malin plaisir à faire rire les copains. Cirrhose, diabète, cholestérol. Paye les traits de la bagnole. Accident cardiovasculaire.
les vacances au bord de la mer, sans oublier en prime quelques bonus, crash d'avion, roulette russe.
Merci beaucoup Stéphanie Gallet, c'était le temps de le dire, une émission à podcaster maintenant sur notre site rcf.fr. Très belle journée à toutes et à tous. Dans quelques instants, comment lutter contre les spams? Ce sera le thème d'À votre service. On va recevoir le secrétaire général de Signal Spam. C'est une plateforme française qui permet justement de signaler tous ces messages indésirables qu'on reçoit quotidiennement dans nos boîtes mail. Thomas Fonvielle sera des nôtres dans quelques instants. Et puis vous tous, je l'espère, au standard bien sûr, pour vos questions et vos témoignages au 04 72 38 20 23.